Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au programme de cette émission, la suite et la fin de nos grands entretiens américains. Aujourd'hui, Lev Manovitch. Un entretien passionnant avec l'un des penseurs du numérique les plus intéressants avec lequel Claire Richard s'est entretenue il y a quelques semaines à New York. Lev Manovitch est un artiste et théoricien né en Russie et qui travaille aux États-Unis depuis 1981. Il enseigne actuellement à la City University de New York où il a fondé les Software Studies Initiative, donc l'initiative, le programme sur les études de logiciels, et il explore l'analyse et la visualisation des big data dans le domaine culturel et esthétique. Comme d'habitude, pour ceux qui préfèrent la VO, on mettra sur le site tout l'entretien en anglais, un anglais matiné d'un accent russe plein de charme. Lev Manovitch au micro de Claire Richard.
Vous avez écrit deux livres importants. Le premier en 2001, Language of New Media, le langage des nouveaux médias, et plus récemment, Software Takes Command, les logiciels prennent les commandes. Vous vous intéressez aux humanités numériques, à l'art et à la théorie des nouveaux médias et aux software studies, c'est-à-dire aux études des logiciels. Donc c'est de ça aujourd'hui dont on va parler, cette question du logiciel. Alors, pour rassurer nos auditeurs qui ne sont pas informaticiens, qui ne sont pas programmeurs, moi non plus, mais ce qui vous intéresse vous chez le logiciel, c'est son impact social, culturel et esthétique dans la culture. Ainsi, dans votre dernier livre, vous posez cette question. Rhétorique en introduction, pourquoi les humanistes, les chercheurs en sciences sociales, les artistes, etc., devraient-ils s'intéresser au logiciel ?
So I think, you know, we encounter software many times.
On est en contact au quotidien avec des logiciels toute la journée.
Perhaps the software has calculated the best route.
C'est peut-être un logiciel qui a calculé le meilleur itinéraire de votre bus, de vos taxis, et dans vos téléphones. Ils sont pleins d'applications qui vous permettent de prendre des photos, d'envoyer des messages, de consulter des mails, de lire vos vidéos. Puis au bureau, vous utilisez peut-être Excel ou des tableaux. Et puis si vous êtes médecin, vous avez aussi des logiciels qui vous aident dans votre travail. Si vous travaillez pour une société spécialisée dans la finance, vous utilisez des logiciels de trading automatique. Donc, quoi que vous fassiez, où vous regardiez, travail ou loisir, vous êtes entouré de logiciels. Aujourd'hui, faire de la sociologie, faire de l'anthropologie, de la psychologie, de l'urbanisme, ça nécessite de prêter attention au fait que le logiciel, on le repart dans la manière dont se fabrique la société, dont on fait la guerre, dont on prend les décisions, ou même dont la mémoire se constitue.
Alors, le logiciel, on voit tout ce que c'est Microsoft Word, Gmail, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une définition simple du logiciel ?
Il y a
plusieurs définitions, mais vous savez bien, les définitions, ça ne décrit pas toujours la réalité. En général, on utilise des ordinateurs personnels et les logiciels sont installés sur le disque dur. Par exemple, on utilise Microsoft Word pour rédiger des textes, Photoshop pour retoucher des images, ou bien des logiciels de design pour designer quelque chose. Alors, aujourd'hui, on utilise non plus seulement les ordinateurs, mais aussi des téléphones et des tablettes. Donc, aujourd'hui, les gens sont aussi en contact avec des millions de logiciels qui prennent l'apparence d'applications. De toutes petites applications qui sont conçues pour faire des tâches très précises. Et si ces applications ne sont pas aussi complexes que Microsoft Word ou Photoshop, c'est parce qu'un téléphone a des capacités techniques limitées, un peu comme les ordinateurs d'il y a 30 ans. Et c'est pour ça qu'on a conçu une application différente pour chaque tâche. Sur une application, vous pouvez consulter la météo ou poster des photos sur Instagram. Vous avez nombre d'applications. Donc. Mais la seconde façon dont on est en contact avec le logiciel, c'est via les sites Internet. Par exemple, quand vous allez sur Google, que vous faites une recherche, le logiciel est alors caché dans les serveurs de Google. Et c'est très complexe. Il faut plusieurs milliers d'ordinateurs pour que vous obteniez votre réponse en une poignée de secondes. Et le résultat, il vous est donné également via interface web. Autre exemple, si vous allez sur Amazon, Amazon va vous montrer, je ne sais pas combien de livres, vous allez en acheter certains, effectuer une transaction. Il s'agit là, comme dans le cas de Google, d'une deuxième catégorie de logiciels qu'on appelle les logiciels web, qui opèrent depuis les serveurs de l'entreprise plutôt que depuis votre téléphone ou votre ordinateur.
Alors, j'ai lu que vous aviez commencé, vous, la programmation informatique au lycée, à Moscou, où vous êtes né, donc, en 1975. Et j'ai lu également que vous avez écrit quelque part que quand vous avez commencé, vous n'aviez pas vu un ordinateur pendant les deux premières années de vos cours. C'est-à-dire que vous programmiez sans jamais voir d'ordinateur. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouviez imaginer la place que prendraient aujourd'hui les logiciels, la programmation, dans nos sociétés contemporaines?
J'ai vécu en Russie pendant la guerre froide, donc au milieu des années 70. Le parti cherchait à contrôler tous les moyens de communication et d'information. Par exemple, c'était impossible de sortir de chez soi et d'utiliser une photocopieuse Xerox. Les photocopieuses Xerox étaient au bureau, dans les bureaux, et chacun pouvait faire qu'un nombre fixe de copies, si bien que si quelqu'un photocopiait illégalement un volume de Solzhenitsyn, c'était possible de le retrouver parce que l'impression laissait des traces. À l'époque, on ne pouvait pas non plus acheter de caméra, les ordinateurs étaient très chers, très protégés, vous ne pouviez pas y avoir accès. Alors qu'aux États-Unis, à la même époque, vous pouviez acheter des kits et construire vos ordinateurs personnels. Vers ces années-là, quelques années après que Steve Jobs a lancé Apple. Donc les gens pouvaient construire leurs propres ordinateurs, alors que rien de tel n'était possible en Russie. Alors, j'étais dans un lycée spécial où on apprenait la programmation. Pendant les deux dernières années, on avait chaque semaine 20 heures d'arithmétique, 20 heures de mathématiques et des cours de programmation. Mais on n'avait le droit qu'au crayon et au papier. Alors la professeure enseignait avec un tableau noir, et c'est comme ça qu'elle expliquait la programmation, et nous on écrivait des programmes à la main, et on lui donnait pour qu'elle nous note. Mais le dernier jour seulement, elle a obtenu une permission spéciale, elle nous a amené dans un centre de programmation, secret, normalement inaccessible, pour que chacun d'entre nous, on puisse, en quelques minutes, taper notre programme sur le terminal. Alors j'ai écrit mon programme, mais ça n'a pas marché. Parce que je n'avais jamais vu de clavier et j'ai écrit un 0 à la place du O. La première fois que j'ai vu de la programmation vraiment interactive, c'était quand je suis arrivé à New York en 1981. Et à ce moment-là, mon imaginaire a complètement été bouleversé. En 1982, j'ai pu observer pour la première fois des images de synthèse en trois dimensions, ce qui était encore très nouveau. Les premiers films utilisant des images de synthèse, comme Tron, venaient à peine de sortir. Et j'ai eu une sorte d'explosion dans ma tête et j'ai compris que, dans l'avenir, les images de synthèse deviendraient aussi importantes pour notre culture visuelle que la photographie. Et à ce moment-là, j'ai pu voir clairement à quoi ressemblerait le futur, et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs.
Alors, de cette idée, effectivement, de ce que vous comprenez de l'évolution du médium dans les années 90, naît ce livre important, Language of New Media en 2001, où vous posez la question de qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans ces fameux nouveaux médias. Et à ce à quoi vous répondez, finalement, beaucoup de choses sont héritées, beaucoup des codes dans les formes que produisent ces nouveaux médias sont hérités de formes existantes. Par exemple, l'esthétique du film, des textes, finalement, n'ont pas changé tant que ça. Mais il y a une chose qui est vraiment cruciale, et c'est que tous ces nouveaux médias sont créés avec un logiciel. Et c'est là, pour la première fois, que vous introduisez l'idée donc, d'une société du logiciel, d'une culture du logiciel dans laquelle on est en train d'entrer. Et cette idée-là, vous la poursuivez dans le livre que vous avez publié récemment, donc Software Takes Command, en 2013. Donc, qu'est-ce que vous entendez par ça? Qu'est-ce que c'est la société du logiciel, la culture du logiciel?
Le livre que j'ai publié cette année se place en fait dans la continuité du précédent, mais dans une perspective qui est un peu différente. J'ai rédigé mon premier livre à partir d'articles publiés entre 1991 et 1999. Des articles auxquels j'ai ajouté beaucoup de nouveaux éléments, et puis j'ai rassemblé tout ça à New York, dans les cafés de Soho, pendant 3 mois. C'est une sorte de résumé de ce qui se passait dans les années 90. Moi, je participais activement à ce qu'on appelle la scène des nouveaux médias. J'exposais mon travail, j'allais à des conférences, à des festivals, je connaissais beaucoup d'artistes. Et en fait, j'étais en train de résumer ce que les gens autour de moi racontaient. Ce qui m'intéressait, c'était l'esthétique visuelle. Voilà, je m'intéressais aux images, aux vidéos, aux animations, aux multimédia, tout ce qui s'était créé avec des ordinateurs. À quoi ça ressemble? Et en quoi est-ce que c'est la même chose que la peinture, l'architecture, le design intérieur? En quoi ça s'en diffère? Alors, je me suis concentré sur l'esthétique visuelle, et puis j'ai commencé à comprendre la spécificité de ce nouveau média. À ce moment-là, c'était des sites internet et des CD-ROM. Et par exemple, le Louvre avait publié un CD-ROM devenu célèbre qui vous permettait d'effectuer une visite virtuelle au musée. Et
maintenant, je comparais ça avec l'architecture, le film, etc. Donc, le nouveau livre continue avec ce projet, et je suis toujours concerné.
Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre ce type d'objet, quel type de navigation et d'interaction était possible, par exemple, comment est-ce qu'un utilisateur peut s'orienter sur un CD-ROM, et puis je faisais des comparaisons avec le fonctionnement, l'architecture, etc. Alors, mon nouveau livre, il prolonge ce projet parce que je cherche toujours à répondre à cette question, mais qu'est-ce que c'est que notre culture? D'où vient-elle? Mais il y a quand même des différences entre les deux livres. D'abord, le terme de nouveau média, il a un peu perdu de son importance depuis le milieu des années 2000, parce que maintenant, tout est nouveau média. Aujourd'hui, il y a sans doute de la nouveauté dans les nouveaux médias du fait de l'interaction. Bon, toute application a une interface interactive. On peut dessiner sur sa tablette, d'ailleurs presque tous les artistes aujourd'hui, même les plus célèbres, dessinent. Et puis il y a aussi évidemment l'univers des jeux vidéo. Et puis chaque image, le moindre élément visuel qu'on voit autour de nous a été créé ou au moins édité avec un logiciel. Tout est devenu nouveau média et on s'y est habitué. Ah, évidemment, tout ça m'intéresse toujours, mais je voulais me concentrer sur la manière dont ces images, ces éléments visuels, ont été édités ou travaillés. Et le rôle que joue le logiciel dans leur apparence finale.
Alors cette modularité, là, cette atomisation, un peu, donc des images, des films en unités un peu discrètes qu'on peut bouger, avec lesquelles on peut faire diverses opérations. Donc ça, c'est le produit des logiciels, que ce soit de traitement d'images ou de films, Final Cut, Photoshop ou de son, etc. Est-ce que ça se traduit du coup, puisque ces logiciels sont utilisés dans toute la production culturelle, ou en tout cas une grosse majorité, par une esthétique contemporaine un peu commune, une forme culturelle qui est du coup le produit de ces logiciels? Est-ce qu'on peut dire ça? Et est-ce que aussi, du coup, comme ils sont utilisés partout et que tous ces logiciels ont en commun des opérations similaire, est-ce qu'il y a une convergence des différents médias?
Alors. So when you think about 20th century kind of art and film.
Quand vous pensez à l'histoire de l'art et du cinéma au XXe siècle, bon, toute évidence, le montage et le collage en étaient les principes fondamentaux. Mais si vous regardez par exemple les premiers photocollages de gens comme Picasso, Marulnage, Rodchenko ou Anna Rock, vous savez, il était impossible d'utiliser des calques parce qu'il n'y avait pas de transparence. Ce qu'on pouvait faire, c'était juste couper et coller. Et c'est pourquoi les éléments se superposent de cette manière. Et si vous superposez trop d'éléments, ça devient vraiment fouillis, ce qui donne l'impression que certains collages produisent comme du bruit. Donc les composants de base étaient le collage et le montage. Alors quand les gens ont commencé à utiliser les tout premiers outils numériques, ou les systèmes qui étaient encore dans le disque dur dans les années 80 pour faire des vidéos, c'était encore le cas. Là, il est devenu possible de superposer plusieurs éléments issus de différentes vidéos à l'aide d'un écran vert, mais encore une fois, il s'agissait d'une façon très élémentaire, rudimentaire, de faire de la surimpression, parce qu'il n'y avait toujours pas de transparence. Et puis, dans les années 90, quand le matériel est devenu plus performant, alors, et encore, bon, dans les années 90, si vous vouliez acheter un système matériel professionnel pour faire cette vidéo, ça vous coûtait $500,000. Hein. Mais bon, doucement, vers la fin des années 90, c'est devenu possible de faire tout ça sur un ordinateur ou un Macintosh. Le changement majeur, ce n'est pas simplement les calques, mais la transparence. La possibilité de contrôler la transparence de chaque calque. À l'époque, sur Photoshop, je ne sais plus pas ce qu'il y en a aujourd'hui, mais vous pouviez utiliser 999 calques et vous pouviez contrôler leur transparence. Alors je pense que pendant ces 4 ou 5 dernières années, l'esthétique visuelle, le design et aussi la vidéo ont complètement changé. On a vu apparaître dans les arts visuels et les médias des images composées de beaucoup d'éléments. Mais comme les artistes peuvent contrôler la transparence et l'importance accordée à chacun des éléments, on obtient des images très différentes, avec un sens très différent de celui que produisait le photocollage. Et comme ces fonctions sont les mêmes, à la fois pour les logiciels de retouche d'images et pour l'édition vidéo, l'esthétique qui en est issue, elle est sensiblement la même. C'est pourquoi à partir de 2001, il n'y a plus de différence entre, disons, les clips de musique, les pubs et l'édition graphique. Tout ça produit exactement le même type d'image.
À quoi ça ressemble, du coup, ce nouveau...
Je dirais que ces nouvelles images, elles ont plus de profondeur, parce qu'elles sont composées de beaucoup, beaucoup de calques. Mais c'est aussi plus subtil, parce qu'il arrive que certains éléments soient à peine visibles. Bon, par exemple, on peut superposer des nuages, ajouter un ciel nocturne, on peut presque faire de l'aquarelle, et on peut le faire sur chaque calque, couche après couche. Bah, une des conséquences, je pense, c'est qu'on peut encore faire des photocollages dans le style 1920, où il s'agit de faire se confronter plusieurs éléments, mais on peut aussi faire quelque chose de plus synthétique en faisant apparaître par surimpression ses humeurs, ses souvenirs. Et c'est comme ça que l'image devient bien plus atmosphérique. L'humeur, d'ailleurs, est toujours plus mise en avant, ce qui, je pense, colle davantage à nos sociétés de consommation, parce que quand vous regardez la publicité lors de ces 15 dernières années, la plupart du temps, on ne voit pas le produit. Hein. On voit un style de vie particulier, un cadre particulier, et puis à la fin, l'image du produit apparaît. Tout ça est lié.
Lifestyle, a particular scene, a particular mood. Even you can put product image. So there's also this kind of connection, right?
Ça, c'est vraiment, à mon sens, en tout cas, une des idées vraiment clés de vos travaux, qui est celle de, au fond, comment le fait qu'on utilise donc des ordinateurs et des logiciels change potentiellement les catégories et les concepts culturels qu'on utilise. Et dans votre premier livre, Language of New Media, vous aviez cette citation, donc parce que c'est un phénomène que vous aviez appelé le transcoding, transcoder, et où vous disiez que nos catégories et concepts culturels sont aujourd'hui remplacés par de nouvelles catégories et de nouveaux concepts qui dérivent de l'ontologie, de l'épistémologie et de la pragmatique des ordinateurs. Alors, est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée-là et nous donner du coup peut-être d'autres exemples de ça, et est-ce que c'est vraiment ce phénomène qui est à l'œuvre ?
Alors, je ne me souviens plus précisément des exemples que j'ai donnés dans le langage des nouveaux médias, parce que je l'ai écrit en 99, mais je peux prendre des exemples plus récents. Alors, prenons Internet et en particulier le World Wide Web. Bon, techniquement, le web, c'est l'hypertexte. C'est une réalisation de l'idée d'hypertexte telle que l'avait énoncé Ted Nelson, un poète qui était un étudiant de Borough et aspirait en conséquence à être à l'avant-garde de la littérature. Et ben, quand Nelson s'est intéressé aux ordinateurs au début des années 60, il s'est rendu compte que l'ordinateur permettait un nouveau type de littérature. Et il a imaginé la possibilité de relier tous les textes du monde par l'hypertexte, de sorte qu'on puisse passer d'un texte à l'autre. Il n'était pas programmeur, c'était un poète, et pourtant il est devenu assez célèbre en tant que pionnier de l'informatique. Les gens ont commencé à se pencher sur ces liens hypertextes à la fin des années 60, et puis Tim Berners-Lee a créé un système plus simple que ceux qui existaient déjà. Et d'ailleurs, au début, les gens n'invitaient pas Berners-Lee aux conférences parce qu'ils disaient « Oh, c'est tellement simpliste son système », mais c'est précisément parce que c'était simple que ça a si bien fonctionné. Donc, en 99, on a le web, qui est une mise en œuvre de cette notion d'hypertexte. Il y a des pages web qui sont hébergées dans différents serveurs, éparpillées dans le monde, et en étant connecté, on peut consulter des pages à Moscou et puis grâce à un lien atterrir sur une page en Angleterre. Ça nous paraît tout à fait normal aujourd'hui, mais c'était un truc complètement nouveau dans les années 90. Et puis petit à petit, le web s'est rempli de contenus culturels, il y a le YouTube, il y a des textes, et parce qu'il s'agit d'une structure hautement contextuelle, ça a apporté un sens tout à fait nouveau à la culture. Tout est devenu horizontal. Parce que si vous allez de ce lien à cet autre, vous pouvez aussi passer d'une publicité à Proust et de Proust à un roman populaire et de ce roman populaire à un discours d'Obama. Tout est désormais au même niveau. L'idée qu'il puisse avoir une hiérarchie a complètement été bousculée. Par exemple, si vous allez sur YouTube, vous entrez dans un univers d'images animées qui contient aussi bien des films entiers que des extraits de films classiques, le tout à côté de vidéos d'amateurs, de blagues ou de tubes. Tout est devenu horizontal grâce à l'hypertexte et aux bases de données, d'ailleurs, dont il faudra que je vous parle aussi. Et je pense que tout ça, ça influence la manière dont les gens comprennent la culture. Pour les gens de ma génération, quand j'étais doctorant au début des années 90, la hiérarchie était claire. Tout en haut, il y avait des gens comme Derrida, Baudrillard, Deleuze, Lyotard. Tout le reste, c'était secondaire. Je pense que pour les étudiants d'aujourd'hui, il y a évidemment Lyotard, Bruno Latour, mais aussi les jeux vidéo, et il y a aussi cet article scientifique d'un Wired magazine, tout ça, c'est au même niveau. Et ça se reflète aussi ici, c'est évident, parce que bon, quand vous et moi allons dans les galeries lorsqu'on fréquente le monde de l'art, bon, on sait bien qu'en fait, il y a un monde culturel plus inclusif. Et je dirais que c'est dû en partie à des outils technologiques comme les liens hypertextes et les bases de données, parce que désormais, tout ce contenu existe en ligne. Soit via un lien, soit en cherchant quelque chose, vous pouvez trouver votre Pompidou à côté de Ziga Vertov, et je pense que ça change la façon dont les gens comprennent la culture. Conçu désormais comme une sorte de grand mix où tout est inclusif, plus horizontal. Tant de choses qui étaient encore incompatibles il y a 20 ans peuvent désormais coexister dans l'esprit des individus.
Alors effectivement, là, vous avez mentionné les bases de données qui étaient une des choses dont vous parlez beaucoup dans Language Avenue Media. Quelle a été l'importance culturelle du coup de ce basculement sur le mode de la base de données pour les nouveaux médias?
So in the 19th century, right? You know, when
Bon, c'est au 19e siècle que tout se développe, hein, les sociétés modernes et toutes ces institutions comme les bibliothèques, les hôpitaux, les prisons. Bon, pour comprendre tout ça, allez lire Foucault. Hein. Foucault explique bien ça, la formalisation des institutions, la manière dont les gens essaient aussi d'institutionnaliser, de formaliser la connaissance. Bon, des gens comme Dewey aux États-Unis inventent des systèmes de classification de la connaissance, et le système de Dewey, par exemple, est implémenté au 20e siècle dans toutes les bibliothèques. Donc c'est une idée du 19e siècle, qui vient peut-être d'ailleurs des Lumières, hein, du 18e siècle, comme celle de la grande encyclopédie de Diderot. C'est ok, on va diviser la connaissance en différentes catégories. Les sciences humaines, la science physique, la religion, et puis à l'intérieur on va créer des sujets, ce qui va créer, bâtir une hiérarchie. Bah, les catalogues de librairie, hein, dans les années 70-80, bah, on y effectue des recherches par sujet. Tout est organisé selon une hiérarchie. Bon, les bases de données, elles sont inventées, disons, dans les années 60, et puis petit à petit, elles se répandent. Regardez eBay. eBay, fondamentalement, c'est une énorme base de données. Amazon, fondamentalement, c'est une énorme base de données. Des bases de données, certes gigantesques, hein, certes usant de technologies différentes, sont derrière iTunes, derrière Rhapsody, derrière eBay ou Amazon. Non mais là, on parle de millions et de millions d'objets. Mais si vous réfléchissez à ce qu'est une base de données, je veux dire, pas ce qu'est vraiment une base de données, mais si on en donne une version très très simplifiée, eh ben, c'est un tableau. Si vous y réfléchissez, un objet, c'est une ligne avec en colonne des attributs. Par exemple, pour de la musique, vous avez le nom d'artiste, des informations sur l'album, combien de gens aiment l'album, combien de fois il a été joué, son genre, etc. Et dans la base de données, vous pouvez effectuer des recherches par attribut. Ce qui signifie qu'aucun de ces attributs n'est plus important que les autres. Par exemple, l'idée de classer la musique en fonction des genres, c'est encore très très courant, mais ce n'est pas du tout la seule manière de classer et de trouver un morceau de musique. Donc, la base de données, en créant des systèmes logiciels plus flexibles, change la manière dont on conçoit la hiérarchie. Et vous le voyez à travers tous les exemples que j'ai donnés, l'animation 3D et la modélisation 3D, Photoshop et les calques, et maintenant avec les bases de données. Au final, dans tous les champs, les conséquences essentielles des ordinateurs sur la culture, c'est qu'ils nous apportent plus de flexibilité. Plus de flexibilité et plus de modularité. Avant, un livre finissait sur l'étagère d'une bibliothèque organisée selon des catégories, philosophie, biologie, religion. Aujourd'hui, on a des versions numériques et des bases de données. Et on peut trier selon les critères qu'on veut. Je vous donne un autre exemple. Un de nos projets les plus récents s'appelle Selfie City. C'est une base de données qui rassemble 3200 selfies, des photos que les gens prennent eux-mêmes avec leur téléphone, qu'on a trouvées sur Instagram et qui proviennent de 5 villes différentes. Alors, on a des données sur Instagram, ce qui veut dire que pour chaque photo, on a le nom de l'utilisateur, là où il l'a partagé, l'heure, la ville.
Mechanical Turk,
Alors, on a aussi fait appel au Mechanical Turk d'Amazon pour deviner l'âge, les images, donc faire une estimation de l'âge, du sexe. Bon, pour le sexe, on utilise l'ordinateur, en fait, c'est plus sûr. Cet ordinateur classe de 0 à 1 et pas simplement 0 ou 1. Bon, et on a près de 25 variables d'analyse de reconnaissance faciale. Où est l'œil, où est le nez, quel type de mouvement. Et on peut classer cet ensemble de données. On peut classer un groupe en fonction de chacun de ces critères. Aucun de ces critères n'est plus important que l'autre. Et la capacité à prendre des objets et à les extraire de leur contexte original, conventionnel, traditionnel, classique, ça bouleverse tout. Parce que dorénavant, tout peut être classé et regroupé dans un nombre infini de manières. C'est absolument fascinant. Juste une dernière chose que je voudrais dire. Bruno Latour a parfaitement compris ça. De tous les intellectuels connus aujourd'hui, il est le seul qui comprenne Sark. Et ses articles m'ont beaucoup influencé il y a 3 ou 4 ans. Quand il parle de data visualisation, de visualisation de données, il parle de la manière dont l'analyse des données et la visualisation des données peuvent nous aider à changer les sciences sociales.
Le dernier souvenir, Serge Gainsbourg.
Les mots sont usés jusqu'à la corde. On voit l'ennui au travers et l'ombre des années mortes hante le vocabulaire. Par la main, emmène-moi hors des lieux communs et ôte-moi de l'idée que tu ne peux t'exprimer que par les clichés.
Les mots inutiles, une des toutes premières chansons de Serge Gainsbourg. Pas de sentimentalisme donc. Puis on retrouve Lev Manovitch, artiste et penseur des nouveaux médias, pour la deuxième et dernière partie de l'entretien conduit par Claire Richard à New York.
Il vaut mieux laisser aux poètes le soin de faire des pirouettes. C'est très joli, oui, dans les livres, mais tous ces mots dont tu t'ennuies.
Vous mentionnez quelque part qu'il y a une épistémologie du logiciel possible, c'est-à-dire de nouvelles façons de savoir et d'appréhender le savoir grâce à cette combinaison de logiciels et de bases de données et la data visualisation. Quel type de savoir ça permet ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre?
Je pense qu'on peut faire des rapprochements entre la société moderne et le type de données, de statistiques, de travail des données. Les statistiques étaient centrales dans la société moderne parce qu'elles légitimaient l'idée du normal et du marginal. Regardez les courbes de Gauss. Elles ont été créées d'abord par un statisticien français du nom de Adolphe Quetelet. Quand, dans les années 1830, il mesura la taille des soldats de l'armée française. Bon, il a mesuré la taille de quelques centaines de personnes et il a remarqué que ça donnait une courbe parfaite, la courbe de Gauss. Et les gens ont ensuite remarqué que cette sorte de courbe était présente tout autour d'eux, à la fois dans la nature et dans la culture. Ces courbes obéissent à une distribution gaussienne. La plupart de données sont au centre et puis vous avez des sortes de queues qui contiennent des données marginales, anormales. Et ça devient la justification de l'organisation de l'armée, de la médecine, de l'école, où tout le monde doit être normal et où les anormaux sont mis soit en prison, soit dans des institutions spécialisées avant d'être lâchés. Il y a des travaux très intéressants sur les relations entre les statistiques sociales, les premiers graphes, et la société moderne disciplinaire. Et aujourd'hui, donc, on a la fouille des données où on ne traite pas 1000 ou 2000 noms, mais des milliards. Alors, la fouille de données, elle est devenue très courante parce que la police, le gouvernement l'utilisent pour lutter contre le terrorisme, mais qu'on en fait aussi usage partout ailleurs dans la société, hein, parce que quand vous allez dans une banque pour faire un emprunt immobilier, la banque utilise un algorithme pour déterminer si elle vous fera le prêt ou pas. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de ma banque disant « Nous pensons qu'il y a des activités illégales sur votre carte bleue parce que quelqu'un utilisait ma carte bleue au Texas. » En fait, avec un algorithme, la banque avait analysé toute l'activité de ma carte bleue et on avait déduit qu'il était très peu probable que je sois au Texas. Alors, la fouille des données, ce n'est pas du tout la même chose que les statistiques. Les statistiques décrivent les populations en fonction de ses propriétés. Par exemple, vous mesurez la taille de suffisamment de soldats de l'armée française pour avoir une idée de la distribution de la taille dans la population. Vous essayez donc de résumer certaines propriétés d'une certaine population en quelques chiffres, et puis vous dites, voilà, la moyenne, c'est ça. Avec la fouille des données, vous regardez les événements inhabituels. Donc c'est presque l'inverse. Avec les statistiques de la société du 19e siècle, vous cherchez à isoler les marginaux. La marge n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est la moyenne. Imaginons que vous vouliez fabriquer des uniformes pour les soldats français, vous cherchez à savoir combien d'uniformes vous devez fabriquer pour les soldats qui sont dans la moyenne. Avec la fouille des données et notre société de données moderne, la moyenne est ennuyeuse. Ce que vous cherchez, c'est ce qui sort de la moyenne. Vous avez par exemple des algorithmes qui font du trading automatique. Vous cherchez les événements inhabituels pour pouvoir acheter des actions ou vendre des actions. Ou autre exemple, disons que j'utilise Google Analytics. Google Analytics, c'est un tableau gratuit que des millions de gens utilisent pour les données de leur site internet. Une partie de ce tableau dit, voilà, ok, c'est le trafic qui provient d'un site et c'est un trafic inhabituel aujourd'hui. Pourquoi ? C'est très intéressant le passage des statistiques de la société moderne à la société du big data et à la fouille de données, où on cherche l'exceptionnel et où l'exception est ce qui nous intéresse. L'exception est ce qui crée la valeur, la connaissance et un regard sur les choses.
Mais alors, par exemple, on pourrait avoir quoi comme application pour les sciences sociales ?
Alors, la manière dont peuvent s'en servir les chercheurs en sciences sociales, bon, revenons à l'idée de base de données. Au 19e siècle, comme il n'y a pas tous ces outils informatiques à disposition, eh bien, on classifiait la société en peu de catégories, hommes, femmes, normal, anormal, personnes en bonne santé, jeunes, criminels, femmes honnêtes, prostituées. D'ailleurs, Marx, c'est l'exemple extrême de ça. Ceux qui détiennent les moyens de production, ceux qui ne les détiennent pas. Prolétariat, capitaliste, c'est vraiment l'extrême. Bon, aujourd'hui, vous pouvez avoir sur votre ordinateur une base de données avec l'ensemble de la population de New York. Bon, disons 10 millions de personnes, ça dépend comment on calcule. Et pour chaque personne, vous avez autant de variables que vous voulez. Vous avez des milliers de variables. Vous savez, qu'est-ce que vous avez mangé hier à dîner? Quand vous achetez un cadeau, quelle couleur vous préférez? Quelle est votre taille? Ensuite, vous pouvez potentiellement regrouper ou diviser tout en autant de sous-catégories que vous voulez, à l'infini. L'effet produit, je crois, c'est de fragiliser l'idée qu'il y a des manières conventionnelles de diviser la société comme la classe, le genre, l'ethnie. Et je crois que ça nous permet d'enrichir notre pensée du social, ou potentiellement, je dis bien, potentiellement. Aucune particularité n'est vraiment importante. Oui, c'est une pensée plus granulaire, mais qui repose aussi sur la multiplication. Chaque classification crée une carte de la société. Et là, on peut multiplier les cartes, comme par exemple. Et quand je dis ça, il ne s'agit pas simplement de concepts, c'est très très pratique. Par exemple, l'année dernière, des gens ont publié de très belles cartes qui montraient New York selon les langues que parlaient les gens sur Twitter. Mais le plus important, c'est, vous savez, comme ils disent en Amérique, là, la « the million dollar question », la question à un million de dollars. Potentiellement, comme je dis dans mes cours, ça ouvre des perspectives complètement nouvelles à la recherche, à l'histoire de l'art, aux études cinématographiques, à la manière dont on conçoit la société, la culture, le politique. Parce que vous pouvez recueillir un nombre incalculable de données et dire « bon, essayons de les visualiser de différentes manières, sans hypothèse de départ ». Juste pour voir ce qu'il en sort, ce qui nous saute aux yeux. C'est un peu comme si vous gravissiez un sommet et que soudain, ah, vous regardez de l'autre côté de la vallée et vous voyez ce qu'il y a. Donc tout ça, ça change aussi la manière de faire la recherche. Avant, vous alliez en bibliothèque et vous disiez, bon, ok, je veux des livres sur le cinéma, je veux des livres sur les années 60, je veux des livres sur la nouvelle vague dans les années 60. Vous deviez déjà savoir, quand vous alliez consulter un catalogue, vous aviez déjà une idée en tête. Aujourd'hui, vous pouvez dire, ok, je veux avoir tous les films du 20e siècle et je veux utiliser mes logiciels. Je peux casser toutes les images, tous les plans, et je peux reconstruire l'histoire du cinéma du 20e siècle par le plan. Donc à la place de films, je peux utiliser des milliards de plans. Pourquoi pas ? Mais c'est stupéfiant. Et j'essaye de faire ça dans mon travail. Mais il y a des limites. Il y a encore des limites. Donc imaginez que cette base de données, vous l'avez, qui contient tous les plans du cinéma du 20e siècle, des milliards de plans. Vous pouvez faire cette histoire du film sur la base de ces plans. Mais là, on manipule encore l'idée conventionnelle qui est celle du plan. Peut-être que le plan, c'est autre chose que ce qu'on pense. Et comment définir le plan ? Et on utilisera un ordinateur pour reconnaître des visages, des contours, toutes variables présentes dans la base de données, va prédéterminer ce qu'on va trouver. Donc, on vit dans la tyrannie des conventions. Au lieu des 3 ou 4 variables, on a aujourd'hui des milliers. Mais ces variables sont encore limitées par notre imagination. Donc la prochaine étape, c'est ça. C'est comment un ordinateur peut-il faire de la critique d'art ou de la critique de cinéma avec des conventions qui ne soient pas les miennes ? Par exemple, avec les selfies, c'est ça qui est intéressant avec les selfies. On s'est dit, ok, on a les selfies. On va commencer par des idées très conventionnelles, le sexe, l'âge, etc. Et quand on donne ça à l'ordinateur, on utilise l'état de l'art des logiciels de reconnaissance faciale. Bon, ça nous donne des choses qui sont entendues comme les émotions. Mais ça nous donne aussi des détails, comme le nez, les yeux, etc., auxquels on n'aurait peut-être jamais pensé. Je pense que l'ordinateur, en nous permettant d'utiliser des données de manière plus granulaire, ouvre la possibilité à la création de cartes plus inhabituelles. Mais il faut s'y coller maintenant, hein. Il faut le faire vraiment. Jusqu'ici, c'était plutôt une idée, c'est plutôt une idée qui trotte dans ma tête.
Mais alors justement, par exemple, là, le selfie, donc vous avez cette espèce d'explorateur de selfie en ligne qui est vraiment très drôle, avec lequel j'ai joué ce matin. Effectivement, on peut changer la base de données des selfies en choisissant des paramètres, etc. Et par exemple, vous découvrez que les selfies, les gens à Bangkok et à Sao Paulo sourient plus, mais alors nettement plus, sur leurs selfies que les gens à Moscou. Et qu'est-ce qu'on fait de cette découverte ? Je veux dire, comment on en construit du savoir ? Qu'est-ce qui vient après le moment de la data visualisation, justement ?
Alors, dans l'explorateur de Selfie, la partie interactive de Selfcity, on avait à peu près 40 variables. Et on s'est dit que c'était un peu trop. Donc, l'outil vous permet d'explorer les données en utilisant des variables démographiques comme l'âge, le genre, la ville, plus des variables fournies par un logiciel. Est-ce que vous regardez en haut ou en bas ? Est-ce que vous penchez la tête ? Je pense que c'est très intéressant. Bon, ce serait exagéré de dire que ça produit de nouvelles classifications ou une nouvelle carte, mais on y travaille et on a lancé des projets. Et alors, un de ces projets a commencé avec la collection de photos Instagram prises à Kiev en janvier. Alors, mon idée originale, c'était très simple. Je voulais voir des images, des manifestations et de la vie politique. Et voir aussi dans quelle mesure Instagram en donnait des représentations ou pas. Alors, on y a travaillé, on publiera un papier dans l'été. Alors, en utilisant les ordinateurs, on peut utiliser un mode de classement qui divise automatiquement les près de 7000 photos de Kiev qu'on a recueillies sur 3 jours. Si vous divisez tout en 2 groupes, vous pouvez avoir une division entre présence de visage, absence de visage, bon, ce qui est assez évident. Mais si vous divisez en 70 groupes, vous allez tomber sur des catégories qui peuvent être inhabituelles. Apparaissent entre les photos des points communs que j'aurais jamais imaginé du tout. Maintenant, j'ai aucune idée du temps que ça va me prendre de passer de ce constat, du constat de ce résultat à la vraie analyse. J'espère que dans les projets à venir, je pourrais rendre cette idée plus littérale, quoi, plus concrète. Bon, enfin, je crois qu'il faut que j'explore encore tout ça, mais c'est un défi qui est vraiment passionnant. Dans les humanités, vous savez, l'art, l'histoire, le cinéma, la littérature, on pense que les scientifiques s'occupent des lois et des probabilités. Et que les chercheurs en sciences humaines, eux, s'occupent des particularités. Donc, vous allez en cours et on vous montre un tableau de Renoir, ou alors vous analysez un seul paragraphe de l'œuvre de, je sais pas, disons, Proust. Alors, quand j'ai commencé à parler de data visualisation, j'ai dit, on peut faire les deux. On peut regarder des photos pour elles-mêmes, mais on peut aussi faire un zoom arrière et distinguer des motifs récurrents d'une photo à l'autre et puis ajouter. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est revenir au singulier et écrire sur une photo en particulier. Le problème, c'est que quand vous avez accès à 1 million de photos, c'est un peu ennuyeux de travailler sur quelques photos particulières. C'est beaucoup plus excitant et beaucoup plus séduisant d'écrire sur un motif récurrent, un modèle. Et donc, je pense, un danger du big data, même s'il permet beaucoup de choses, parce que vous avez beau vous dire, ok, c'est la photo la plus intéressante, je vais travailler dessus. Et bien, le motif plus large exerce une séduction et vous attire vers ailleurs. Quand vous faites un zoom arrière, ça devient difficile de refaire un zoom avant. Il faut y penser, c'est un souci, hein, la séduction psychologique de la grandeur, la séduction du modèle. Mais encore une fois, c'est un modèle qui est le fruit d'une somme de particularités, c'est pas une simplification, en soi c'est une bonne chose.
Une des critiques qu'on fait souvent à Big Data, c'est le fait que comme de toute façon, il faut analyser ces énormes masses de données avec des algorithmes qui sont paramétrés à l'avance. Est-ce que justement le fait qu'en fait finalement on choisit les paramètres de la façon dont on va analyser les données, est-ce que finalement il n'y a pas ce risque de retrouver toujours ce qu'on est parti chercher, enfin je veux dire de ne pas découvrir justement à cause de cette question des paramètres?
Exactement.
Exactement.
Well, yes, but no.
Oui, mais
so,
non.
Let's say I'm interested in the history of modern art.
Bon, imaginons que je m'intéresse à l'histoire de la moderne. On va donc prendre des échantillons de tableaux. Et je veux montrer comment l'art change de Courbet à Delaunay. Vous remarquez que j'utilise autant que possible, hein, j'espère, des exemples français. Bon, donc, imaginons que je m'intéresse à l'art moderne. Donc je vais demander aux ordinateurs d'analyser la couleur, la texture, les formes, et ça va donner des graphes. Mais les graphes ne mettront en avant que des critères que j'ai demandé, moi, à l'ordinateur d'analyser. Mais en réalité, les choses sont plus intéressantes, parce que quand l'ordinateur analyse des images, il peut en tirer des milliers de statistiques qui n'ont aucun sens pour l'être humain. Et un niveau d'analyse très bas, qui n'a donc aucun sens pour l'être humain, parce que l'ordinateur est utilisé en général pour trouver des catégories logiques. L'ordinateur peut trouver toutes sortes de motifs intéressants dans les données, que vous n'aviez pas imaginé quand vous avez regardé ces motifs, et que vous ne comprendrez peut-être pas. Ah, il est tout à fait possible que vous ne compreniez pas du tout de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi, par exemple, quand j'ai commencé ce travail en 2007, j'ai commencé avec l'art abstrait. Parce que si j'avais commencé à visualiser des peintures du type de portraits ou des choses représentées, figuratives, les gens auraient fait attention qu'au contenu. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec l'art abstrait, parce qu'on a beaucoup plus de variables et le contenu n'est pas ce qu'il y a de plus important dans l'art abstrait. Mais je pense qu'avec Selfie, par exemple, ça va être plus difficile. Parce que imaginons que l'ordinateur trouve des modèles étonnants sur la manière dont, je sais pas... les oreilles font des micro-mouvements. Bon, si l'ordinateur me les donne à voir, je ne remarque rien. À la place, je verrai l'expression des gens ou leur genre. Donc, les ordinateurs peuvent se transformer en un autre critique. Mais comprendre comment ils peuvent préserver leur altérité, c'est comprendre comment l'ordinateur pense. Et il s'agit là d'une question très intéressante et très difficile.
Est-ce que vous pouvez aussi nous parler du coup de votre dernier projet, de vous et votre équipe ici avec les Software Studies Initiative, pour lequel vous avez une énorme bourse de Twitter qui vous donne accès à ces données?
En fait, on a trouvé des tweets provenant de centaines de villes américaines, et voici ce qu'on a fait. On a utilisé une technique très standard qu'on appelle l'analyse des sentiments, grâce à laquelle on peut classer les tweets en fonction de l'émotion des gens. Est-ce qu'ils disent quelque chose de positif, de négatif, etc. Bon, ces techniques sont utilisées dans beaucoup d'entreprises. Et on a croisé l'émotion moyenne dans les centaines de villes américaines avec d'autres critères du bien-être social. Ou le taux de criminalité, par exemple, avec des chiffres fournis par l'Institut Gallup, qui distribue chaque jour des sortes de questionnaires. Donc chaque jour, on peut mettre à jour notre index du bien-être. Et alors, on a donc comparé les données provenant de Twitter, extraites de Twitter, avec des données démographiques et des provenant aussi des sciences sociales plus traditionnelles. Et dans certains cas, on a vu apparaître de fortes corrélations. Donc, si vous voulez comprendre comment une ville va, comment un quartier va, ben, c'est inutile d'aller demander aux gens, parce qu'il faut aller demander à beaucoup de gens et que ça coûte cher, vous pouvez tout simplement regarder Twitter. Et ce qu'il y a de bien là-dedans, évidemment, c'est qu'on peut ajuster les mesures chaque jour et faire des analyses très détaillées. Alors, ce que je dis, c'est « Ok, bon, c'est passionnant tout ça, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire la même chose avec des images ?» Les gens se disent « Ok, peut-être que les gens heureux ont tendance à poster plus d'images du ciel ou de fleurs, par exemple. » À nous répond « Vous savez quoi ? On ne va pas faire de suppositions. On va simplement collecter 1 million d'images sur Twitter qui sont postées depuis toutes les villes, d'autres pays que les États-Unis. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas les statistiques pour les villes de tous les pays, on a juste celles des États-Unis. Bon, évidemment, il y a une différence selon le quartier, selon l'endroit où vous vivez, parce que ça peut être en lien avec le revenu, donc c'est compliqué. Mais pour les États-Unis, on a un site avec beaucoup de statistiques. Bon. Donc, prenons des images familières, analysons-les de toutes les façons possibles et voyons si certaines de ces mesures sont corrélées avec d'autres mesures du bien-être social et voyons ce qui se passe.
Tout un peu là, notre discussion sur l'importance des logiciels et de ce qu'on peut découvrir, des nouvelles conceptions de la société qui peuvent découler de Big Data, ça pose quand même la question, comment on comprend la culture numérique aujourd'hui et la culture en général? sans au moins un minimum de familiarité avec le code et le langage de la programmation? Est-ce que, parce qu'il y a toute une école qui consiste à dire il faut absolument apprendre à programmer, etc. Est-ce que c'est si important que ça? Et dans quelle mesure c'est important?
Okay, so the thing is like this, right? You know, now it's very popular in New York.
Bah, ce que je pense, en ce moment, à New York, c'est très à la mode de suivre des cours de programmation. Bon, si vous apprenez à écrire des programmes très courts, disons que vous apprenez à écrire un programme d'une page. Ça ne vous expliquera en rien la manière dont fonctionne la société du logiciel. Parce que la société du logiciel repose sur des choses comme des bases de données, des serveurs, la fouille des données, les protocoles. Donc, c'est très bien d'apprendre à coder. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre le concept. Et c'est pas la même chose. Si je devais aider des gens à comprendre la société du logiciel, je passerais une heure sur la programmation et je passerais le reste du temps à leur expliquer tous ces concepts. Parce que ce qui se passe, c'est que tout ça, c'est une question d'échelle. Si vous apprenez à écrire un programme, ça ne vous aide en rien à comprendre comment Amazon fonctionne, comment Google fonctionne, comment le système de classement des crédits fonctionne. Ce qu'il faut apprendre, ce sont d'autres concepts. Ce qu'est une base de données, ce qu'est une base de données relationnelle, ce qu'est un système de service client, comment fonctionne un navigateur. Vous savez, les principes de base de la recherche, de la recommandation, et puis d'autres choses comme ça.
Mais alors, est-ce que du coup, vous pensez que c'est important d'apprendre justement toutes ces choses pour comprendre comment fonctionne la société aujourd'hui un peu ?
Une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à dépenser mon énergie à comprendre la société du logiciel, c'est pour attirer l'attention des gens sur le fait que le logiciel est partout. Alors les gens vont dire, ok, mais comment on étudie ça? Eh bien, vous pouvez n'étudier que les principes que je viens de mentionner. Mais si vous voulez étudier les vrais algorithmes, ceux qu'utilise Google Search, celui qu'on utilise pour la recommandation de musique, ou que Netflix utilise, ou encore celui qui fonctionne dans le système de navigation de votre voiture, impossible. C'est fermé. Ça, c'est le problème fondamental. Notre société ne repose pas sur une constitution de 3 pages, elle repose sur des algorithmes de 50 millions de lignes qu'on ne peut pas consulter. Alors, le second problème, c'est que même si ces algorithmes étaient ouverts, ce serait très, très compliqué. Donc, comment avoir des intellectuels qui parlent en détail des algorithmes ou des systèmes logiciels qui comptent 100 millions de lignes de code? Cette question est tout à fait fondamentale. Comment être un intellectuel dans la société moderne alors que ces objets sont fermés et que si on les ouvre, ils sont super complexes?
Absolument, c'est ça. Le problème, quand même, c'est que si on dit qu'il y a une société du logiciel et que c'est très important pour comprendre la culture contemporaine, mais en même temps, la plupart des algorithmes sont privés, protégés, Facebook, l'algorithme de Google, etc. Du coup, qu'est-ce que peuvent vraiment faire les software studies? Est-ce qu'elles ne sont pas condamnées, du coup, à avoir une portée un peu limitée?
Barack can be the scientist and also people from his companies who publish papers about their work.
Les scientifiques, mais aussi des gens qui travaillent au sein des entreprises, publient des papiers sur leur travail. Si vous lisez les papiers des gens de Google ou de YouTube, ça vous donne suffisamment de détails pour en parler. Bon. Donc au moins, il y a des principes de base qu'on peut étudier, qui sont communs à tout système, même si on ne sait pas exactement le code sur lequel ils reposent. Je pense qu'il s'agit plutôt d'éduquer les gens à ces principes, plutôt que de leur faire comprendre exactement comment les agrégateurs de Google fonctionnent, parce que même, ça ne fait pas vraiment. Parce que ce sont des programmes apprenants qui changent très vite. Ce qu'il faut comprendre parmi ces principes, c'est qu'il y a une idée commune derrière le logiciel. Et c'est là que je perçois une raison à l'existence de ce champ. Je fais des software studies, des études du logiciel, parce que je ne vois aucun autre champ qui s'intéresse à ça, parce qu'on est là au croisement de plusieurs disciplines. Et je pense que la société devrait aujourd'hui commencer un vaste débat. Oui, je comprends que la société X ne veut pas révéler son logiciel parce qu'il y a concurrence. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit inaccessible. Regardez comment un pays comme le Brésil s'est entièrement converti à l'open source et à Linux. C'est un exemple. Comme il y a des exemples de pays qui sont passés de Windows à Linux à l'open source, l'open source est une des questions les plus importantes. Bon, ce que je trouve intéressant dans la discussion qu'on a là, c'est qu'il serait impossible d'avoir des discussions aussi profondes dans des médias américains.
Ah bon?
Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir cette discussion aux États-Unis pour toute une série de raisons, seuls les médias européens le permettent.
France rocks.
Merci à Lev Manovitch, ses références sont sur la page de Place de la Toile, et je rappelle que le premier livre de Lev Manovitch, Le langage des nouveaux médias, est paru en français en 2010 aux presses du Réel. Sur la page de Place de la Toile, vous pourrez également réécouter cet entretien avec la traduction et aussi en version originale. Alors merci aussi à Claire Richard pour cet entretien passionnant et pour tous les autres qu'elle nous a permis d'entendre ces dernières années. Ils auront, si besoin était, convaincu que de l'intérêt d'aller lire et écouter ce qui se dit et s'écrit outre-Atlantique sur ces questions numériques. Alors c'était la dernière Place de la Toile de la saison et ma dernière. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui pendant 5 ans ont bien voulu répondre à nos invitations, qui l'ont fait le plus souvent avec beaucoup de générosité et ça m'a souvent touché. J'ai beaucoup appris en écoutant tous ces invités, en discutant avec eux, et j'espère qu'il en a été de même pour vous, auditeurs et auditrices. Je tiens aussi à remercier toutes celles et tous ceux qui, au fil de ces années, ont participé à l'élaboration de cette émission, les techniciens et techniciennes, aujourd'hui c'était Jacques Hubert, les réalisateurs et réalisatrices, Vanessa Nadjar aujourd'hui, Daphné Abgral, qui a collaboré aux premières émissions, Billy Guidoni, qui pendant un an nous a donné de la musique gratuitement, tous les stagiaires, hein, et évidemment Thibaut Henton, avec qui ce fut toujours un plaisir de travailler, ou presque. Et puis je voudrais remercier aussi le plus chaleureusement possible vous autres, auditeurs et auditrices de Place de la Toile, les infidèles, les plus fidèles, les fans, parce qu'il paraît qu'il y en a, vos commentaires, vos rectifications, vos remarques, vos désaccords, vos éloges, vos propositions, vos suggestions, vos déceptions ont non seulement guidé la programmation de l'émission dans des proportions que vous n'imaginez sans doute pas, mais elles m'ont aussi donné le sentiment d'une discussion en continu, discussion qui m'a beaucoup appris et qui m'a donné le sentiment d'être constamment redevable de l'intérêt que vous portiez à notre travail. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette émission, mais réjouissons-nous déjà qu'elle ait existé pendant cette saison et louons la clairvoyance de celles et ceux qui ont pensé que les questions numériques avaient pleinement leur place sur une antenne culturelle exigeante. C'était Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique, c'était Jacques Hubert aujourd'hui. Réalisation Vanessa Nadjar, dans quelques instants, vous retrouverez Elisabeth Tchungi sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine, bon été.